simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, on va vous passer ce soir une émission antinucléaire qui nous vient tout simplement de l'actualité des luttes. Et avant, je voudrais vous lire tout de même une info, l'infotour de Bure qui va être à Reims bientôt, le samedi 23 novembre. J'y reviendrai. Alors, faut savoir qu'on est vraiment concerné puisque près de chez nous, il y a Cristal Union, l'industriel, qui projette l'installation d'un micro-réacteur sur le site de Bazancourt. Quant à Charleville, il y a un industriel au bois qui veut implanter une chaîne de construction de wagons-conteneurs dédiés au transport de déchets nucléaires. Déchets nucléaires, ça nous fait penser bien évidemment à Bure, dans la Meuse. Depuis 1999, avec l'installation du laboratoire souterrain de recherche géologique, CIGEO, à 500 mètres sous terre, plusieurs générations se sont déjà côtoyés pour combattre ce projet d'une dimension hors norme. La fabrique du consentement, c'est-à-dire l'achat, des élus meusiens et haut-marnais, a représenté depuis l'année 2000 plus d'un milliard d'euros distribués par le GIP, c'est-à-dire le groupement d'intérêt public. Au cours de la dernière décennie, le niveau de répression et de criminalisation des opposants et opposantes a atteint un paroxysme avec l'inculpation d'associations de malfaiteurs concernant une dizaine de personnes. L'empire financier de l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs, de 2688 hectares de forêts et terres agricoles, ne cesse de s'agrandir. Une nouvelle procédure d'expropriation s'achèvera d'ailleurs en octobre 2025. Le site de l'ancienne gare de Numéville est convoité par cette procédure. C'est un des lieux importants pour le mouvement, tout comme la maison de la résistance de Bure et la maison de l'Augustine de Mangres-en-Barrois. La gare est un point stratégique où l'endroit prévoit d'aménager un axe ferroviaire pour l'aménagement des déchets nucléaires. Donc à travers des extraits de films et de courts-métrages, nous évoquerons dans ces réunions la situation de la lutte et de la vie dans ce territoire colonisé par le nucléaire et son monde. Les rendez-vous, je vous les donne, même si certains sont un peu loin. Le rendez-vous, le premier, c'est à Soissons, le vendredi 22 novembre, à la bibliothèque municipale de Courmelles. Place Gaston Pinault à 19h. À Reims, ça sera donc le samedi 23 novembre à la cantine au Bon Reste à 19h. C'est 16 rue Pierre Maître. C'est donc à près de Saint-Brice, puisque la ligne de bus c'est le numéro 9. C'est le pont de Saint-Brice. Et à Charleville, c'est une semaine plus tard, le samedi 30 novembre au café-librairie chez Josette, 5 rue de l'Arquebuse. Voilà, à bientôt.
Donc, le nucléaire va-t-il sauver le climat? Grave question qui nous plonge tous dans des abîmes d'anxiété, tout en nous faisant miroiter un espoir que la solution soit là. Le nucléaire va sauver le climat, trois petits points, pour que rien ne change. Alors, quelques dépêches récentes. Jeudi 19 septembre 2024, une dépêche de l'agence France Presse se fait l'écho d'une réunion d'une quinzaine de ministres de pays de l'OCDE pour une conférence internationale destinée à mettre en action la relance du nucléaire afin de tenir les objectifs climatiques mondiaux. Alors, selon l'Agence pour l'énergie nucléaire, une officine de l'OCDE, il faudrait tripler les capacités nucléaires mondiales d'ici 2050 pour respecter les objectifs de neutralité carbone. On voit que l'objectif est quand même assez haut. Ensuite, je cite, « Le nucléaire fait un retour en force dans le monde », a assuré à l'AFP Fatih Birol, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, en vantant les atouts du nucléaire, ami de la sécurité énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà les choses un peu posées du côté des nucléocrates. Mais relancer la construction de réacteurs nucléaires pose de nombreux défis pour des pays qui n'en ont plus construit depuis longtemps. En effet, l'électronucléaire est en recul presque partout dans le monde, contrairement à ce que dit le monsieur cité juste avant, si l'on excepte la Russie et la Chine, de beaux pays au demeurant. Aujourd'hui, l'électronucléaire produit moins de 10%, c'est les chiffres 2022, de l'électricité mondiale, contre 17,6% en 1996. Donc on voit que le recul est assez net. Et donc l'électronucléaire représente aujourd'hui moins de 2% de l'énergie produite dans le monde, ce qui est peu. Donc si on a l'idée de s'appuyer là-dessus pour sauver le climat, on voit qu'il y a de la marge. Il faudrait construire et mettre en service de nouvelles centrales nucléaires, 10 tous les ans pendant plusieurs années, et sans même parler, ce qu'on évoquera un peu plus tard, de la mise à l'arrêt nécessaire des centrales arrivées en fin de vie. Donc vaste programme. Alors comment comprendre que le nucléaire, qui est l'exemple, l'incarnation de la guerre aux vivants et les catastrophes toujours en cours de Tchernobyl et de Fukushima, ont bien montré combien le nucléaire est une menace pour la Terre, l'eau et l'air. Donc comment comprendre que cette énergie puisse aujourd'hui être considérée comme une solution possible? Au point que des personnalités qui se revendiquent de l'écologie, de la défense de l'environnement, Yann Arthus-Bertrand, Greta Thunberg, affirment qu'il ne faut pas se passer du nucléaire. Il y a 20-25 ans, aurait-on imaginé qu'une personne se revendiquant de l'écologie puisse faire l'apologie du nucléaire, ou tout au moins en faire une solution de transition? Donc comment a pu s'opérer ce tour de passe-passe? On sait que le nucléaire est une industrie extrêmement coûteuse et qu'elle a besoin de mobiliser des financements très importants. Et évidemment, dans ces cas-là, il s'agit de financements publics. Elle doit donc pour cela convaincre les États, mais aussi les populations à minima. En plusieurs occasions, l'industrie nucléaire va faire preuve d'opportunisme et mettre à profit les crises internationales pour se présenter en sauveur du mode de vie occidental. Petit rappel, notre commissariat à l'énergie atomique a été créé en 1945, ce qui peut surprendre, puisque donc à peine l'armistice signé, on s'empresse de créer un commissariat à l'énergie atomique, lequel dépend exclusivement de la présidence de la République, ne rend aucun compte au Parlement. Il s'agit alors de restaurer la puissance de la France, sérieusement mise à mal par la Seconde Guerre mondiale, et à ce moment-là, il s'agit bien sûr de nucléaire militaire. Aujourd'hui, le CEA, c'est 21 000 salariés pour un budget annuel de 6 milliards d'euros. Je disais donc les crises. Une dont on se souvient sans doute encore, c'est 1973 et le choc pétrolier. Donc suite à un conflit au Moyen-Orient entre Israël et des pays voisins, arabes voisins, choc pétrolier, en un an, le prix du baril passe de 2,70 €, les prix ont été convertis en euros, à 11 €, soit une hausse 2 × 5, ça fait mal. Un petit peu plus tard, en 1980, le baril est arrivé à 35 €. Donc tout ça fait peser une menace sur l'économie française et les autres, hein, et donc va conduire en France à l'adoption du plan Messmer, qui initie la construction des 58 centrales, moins deux mises à l'arrêt, celle de Fessenheim, donc les centrales qui sont en service encore aujourd'hui. Et donc c'est bien en articulant ce choc pétrolier et la nécessité d'une énergie qui ne dépendrait plus du pétrole et qui va inciter à mettre en route ce plan assez monstrueux. Bien des années plus tard, après Tchernobyl et Fukushima, le nucléaire a mauvaise presse. Et on comprend pourquoi. Des pays décident d'y renoncer, l'Allemagne tout particulièrement après Fukushima. Plus ou moins dans le même temps, les rapports du Club de Rome, puis ceux du GIEC, alertent sur le réchauffement, puis le dérèglement climatique et la responsabilité de la production du CO2 dans ce phénomène. Ces institutions présentent l'électronucléaire comme faiblement émetteur de CO2 et donc une solution possible pour lutter contre la crise climatique. Je rappelle au passage que les représentants français du GIEC, comme Jean Jouzel, Véronique Masson-Delmotte ou Hervé Le Treut, sont tous passés à un moment de leur carrière par le CEA. Tout récemment, une autre crise, en 2022, le déclenchement de la guerre en Ukraine et la Russie, a fait craindre pour la sécurité des approvisionnements en énergie dans le monde, et la France en particulier. Les autorités vont très vite présenter à ce moment la production d'électricité par le biais du nucléaire comme permettant d'assurer l'indépendance énergétique de la France. Je ne reviens pas sur ce sujet, mis à part que c'est un très gros mensonge, puisqu'il faut de l'uranium et la France n'a aucune mine d'uranium en activité. Elles ont toutes été épuisées. Donc, indépendance, on se demande où aller. Et la dépendance à l'égard de la Russie reste très importante de ce côté-là. Donc trois crises, la crise du pétrole, la crise climatique et la guerre en Ukraine, que le nucléaire va utiliser et instrumentaliser en prétendant être la solution à ces crises. Donc quel est le mécanisme? On peut dire que d'une façon, plus nous avons peur, plus nous craignons pour l'avenir de la planète et de son climat, plus le nucléaire peut masquer les dangers qu'il génère et se présenter en sauveur. Car ce que nous craignons par-dessus tout, c'est de devoir questionner notre mode de vie. La solution nucléaire permet d'entretenir le mythe d'une abondance sans fin et de ne pas questionner le modèle productiviste qui est le nôtre, modèle fondé sur une consommation addictive. Donc industrie, transport, flux numérique, sans oublier les énormes data centers requis par l'intelligence artificielle qui se met en place et qui promet de nous rendre la vie si simple au prix d'un asservissement toujours plus grand. Donc l'argument du climat n'est au fond qu'une instrumentalisation de plus des crises pour alimenter nos peurs et présenter le nucléaire sous un jour nouveau et masquer les immenses dangers qu'il fait peser sur la société dans son ensemble. Est-ce que le nucléaire serait donc techniquement, entre guillemets, à même de sauver le climat? Les centrales nucléaires ne produiraient pas de CO2 ou si peu. À regarder de plus près, on peut faire de moments en douter. Premier élément qui est celui du rendement. On sait que dans une centrale nucléaire, l'énergie produite est dispersée dans l'atmosphère sous forme de chaleur et de vapeur. 60% de cette énergie est dispersée dans l'atmosphère sous forme de chaleur et de vapeur, ce qui n'est pas un très bon moyen quand on parle d'éviter de réchauffer. De plus, pendant son transport, donc depuis le site de production via les lignes à haute et très haute tension, environ 10% de l'électricité produite est perdue sous la forme de pertes en ligne. Donc c'est un phénomène physique naturel. Hein. Le cuivre a beau être un très bon conducteur, il y a tout de même des phénomènes d'échauffement et donc une perte d'énergie. Donc tout ça fait que c'est un système dont le rendement est très faible, autour de 30%, et donc l'un des plus mauvais rendements en termes de production d'énergie. Autre point, pour fonctionner, l'industrie nucléaire requiert une colossale chaîne industrielle qui, elle-même, est loin d'être neutre. L'extraction des minerais nécessite évidemment des travaux, des engins, et donc des émissions de CO2, si c'est cet aspect qui nous intéresse. Le transport de ces mêmes minerais depuis les pays d'extraction, Niger, Kazakhstan, Canada, Australie, se fait par transport maritime, ça n'est pas neutre. Puis depuis les ports d'arrivée vers les lieux de transformation, le transport se fait par voie ferrée et routière. De plus, la construction des centrales elles-mêmes requiert des millions de tonnes de béton. Le béton, il faut produire beaucoup de CO2 pour en fabriquer, des transports, des déplacements, bref, toute une infrastructure qui est loin d'être neutre. Je disais avant, les centrales nucléaires ne produiraient pas de CO2 ou si peu. Alors certes, quand elles fonctionnent, ce qui n'est pas encore le cas de l'EPR de Flamanville, qui pour l'instant a un bilan plutôt très très négatif, il n'y a pas de combustion. Donc effectivement, peu d'émissions de CO2 comparées aux autres modes de production d'énergie, pétrole et gaz. Mais le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre impliqué dans le réchauffement climatique. On sait par exemple, et là ce n'est pas le cas, les centrales n'y sont pour rien, mais que d'autres gaz sont impliqués dans ce phénomène. Les émissions de méthane, par exemple, sont liées à l'élevage et elles sont responsables de façon importante du réchauffement. Et il y a par ailleurs d'autres gaz qui sont produits par l'industrie qui ne sont pas mentionnés et restent tout à fait inconnus du public. Alors par exemple, moi je ne connaissais pas il y a peu le SF6, l'hexafluorure de soufre et de fluor, C'est le plus puissant des gaz à effet de serre, d'après l'autorité de sûreté nucléaire. Son potentiel de réchauffement global est 23 500 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone à 100 ans. Alors effectivement, on en produit moins en quantité, mais tout de même, l'industrie nucléaire en France en produit de un peu plus de 1 à 2 tonnes de SF6 par an, soit l'équivalent de 30 000 à 45 000 équivalents CO2. Ce n'est pas rien. L'industrie nucléaire génère, toujours selon l'ASN, des fuites de fluides frigorigènes. Là aussi, ce sont des gaz à effet de serre au potentiel de réchauffement de 1200 à 3000 fois supérieur à celui du CO2, selon le type du gaz. Donc on le voit, peu d'émissions de CO2 au moment du fonctionnement de la centrale, mais des impacts sur le climat qui ne sont pas négatifs. Un autre impact négatif sur le climat, lié à l'émission de chaleur, donc j'en ai un petit peu parlé au début, c'est-à-dire de plus en plus d'études font état de l'influence des émissions de chaleur sur l'environnement proche et lointain des centrales. Sur l'environnement proche, c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est une élévation constante, conséquente de la température de l'eau des fleuves ou des mers qui sont utilisées pour refroidir les centrales, et tout ça à proximité des centrales. Ça a un impact sur la faune et la flore de ces milieux, mais aussi ça produit une élévation de la température atmosphérique à proximité, ce qui a un impact sur les événements météorologiques proches. Ce qui est moins connu et qu'on ne cherche pas trop à connaître, c'est l'influence beaucoup plus large à l'échelle régionale ou continentale des émissions de chaleur d'origine anthropique. Autre impact important qui a des conséquences sur le climat de façon, pas indirecte, je parlais assez rapidement de l'impact économique négatif. L'industrie nucléaire constitue une captation des flux financiers de manière inefficace, et donc c'est négatif par défaut. Il faut bien comprendre que les milliards requis par le nucléaire ne seront pas utilisés ailleurs. Donc la recherche nécessaire au nucléaire, la construction des centrales, le démantèlement, tout ça coûte énormément. Et donc on peut dire qu'on assiste en quelque sorte à une sorte d'extraction financière massive de la richesse économique française au profit des industries du nucléaire, EDF, Orano, mais aussi tout le BTP. Il y a toute une chaîne qui se nourrit très bien de tout ça, mais comme on dit, c'est nous qu'on paye. Donc à l'heure où on parle de réduction budgétaire, à titre d'indication, le prolongement des réacteurs qui nous est promis pour aller de 40 à 60 ans, les travaux nécessaires sont budgétés à 100 milliards. Ce n'est pas rien. Par ailleurs, l'énergie produite par le nucléaire est de plus en plus chère comparée aux tarifs des renouvelables qui, eux, baissent régulièrement. On estime que l'EPR de Flamanville produira quelque chose qui coûtera plus de 100 euros le mégawattheure quand les renouvelables sont à la moitié de ce prix. Donc on voit la politique énergétique française est en train de prendre un retard extrême sur tous les sujets dont elle prétend nous protéger, l'indépendance énergétique, le climat et l'équilibre budgétaire. Dans les années 70, on avait ces slogans, par exemple, on veut des hôpitaux, pas des centrales. Je pense qu'on peut ressortir ce slogan. Ça peut avoir un impact. Donc en conclusion, le nucléaire est une promesse de plus, lesquelles promesses, comme on le sait, n'engagent que ceux qui les écoutent. Le nucléaire ne sauvera ni le climat, comme il n'a jamais assuré l'indépendance énergétique d'aucun pays, ni sauver la paix dans le monde, ça se saurait. Poursuivre et développer le nucléaire comme nos dirigeants nous y engagent, avec si peu de légitimité, c'est l'assurance de nous faire vivre dans un monde dont la toxicité sera toujours plus grande, et ce, pour des milliers d'années. Toxicité pour le milieu dans lequel nous vivons, toxicité pour la santé, la nôtre et celle des générations à venir, et toxicité pour nos vies sociales. Rappelons le vieux slogan, société nucléaire, société policière. Le nucléaire est donc un projet de société, un projet de guerre aux vivants, un projet d'obéissance et de soumission aux désastres qu'il génère. De ce projet, nous ne voulons pas. C'est donc contre ce projet que nous nous battons.
Bah, c'est très chouette de voir tout ce monde-là devant. En tout cas, la petite famille anti-nucléaire aujourd'hui est présente et ça fait plaisir à voir. Et du coup, j'interviens pour le réseau Sortir du Nucléaire. Donc, Joël de Manjou pour le réseau Sortir du Nucléaire. Déjà, moi, j'avais envie de placer un peu le rassemblement sous ce qui nous préoccupe quand même particulièrement, c'est la question de la relance. Ce défi qu'on a quand même aujourd'hui dans la lutte anti-nucléaire de se remobiliser quand même assez fortement face à un rouleau compresseur qui avance, qui est celui de la relance, et des trois paires d'EPR qui vont arriver, les 14 qu'on nous annonce et les investissements très massifs qui sont mis là-dedans. Ce qui est quand même une ineptie totale au regard aujourd'hui des besoins qu'on a ailleurs, des énormes enjeux qu'on a face au réchauffement climatique, à la situation sociale. Cet argent-là va être massivement mis à un endroit et ne sera pas là où c'est nécessaire ailleurs, notamment sur la question des EPR, ces coûts qui vont être démultipliés sur la question des EPR dans les années à venir vont forcément se faire au détriment de pas mal d'autres choses. Et du coup, moi, ce que j'avais envie de dire un peu dans ce contexte de relance, c'est que on a besoin de se mobiliser massivement dans les mois à venir. On a besoin d'être tous ensemble. On a besoin, au-delà de la famille antinucléaire, de mobiliser massivement sur la lutte antinucléaire, d'aller au pied des centrales, de remarcher massivement ensemble pour se donner des forces, pour se donner de l'envie. Et on a besoin de créer ces forces-là l'an prochain. On a pas mal d'événements qui vont avoir lieu sur la lutte antinucléaire dans les prochains mois. On va se retrouver à La Hague, on va se retrouver à Bure. Et essayons tous d'être le relais de ces mobilisations, d'aller aussi vers d'autres mobilisations. Aujourd'hui, il y en a beaucoup sur l'environnement, sur les causes environnementales. Essayons de faire les jonctions. Soyons les messagers de la lutte antinucléaire aussi vers les autres luttes. Essayons de ramener toutes ces personnes aussi à nos côtés pour lutter dans les prochains mois. Voilà.
Oui, bonjour, donc je fais partie des organisateurs de la grande journée antinucléaire de Rouen du 11 octobre 2024. On est là pour dénoncer le fait que donc en Normandie on a déjà suffisamment de réacteurs comme ça et qu'il n'est pas question d'imaginer qu'on puisse construire des EPR supplémentaires.
Suffisamment de réacteurs, c'est-à-dire il y en a déjà combien ?
Bah, c'est-à-dire qu'on en a 4 à Paluel et 4 à Penly, donc c'est déjà suffisant. Non, 2 à Penly pour l'instant, ça fait 6 réacteurs en tout sur la côte normande. Donc pour nous, on considère que c'est suffisant et que construire des EPR alors qu'on sait très bien que l'EPR fonctionne nulle part actuellement, ça n'a aucun intérêt pour nous pour l'instant.
D'accord. Et donc du coup, demain, 12 octobre, ça continue, il y a une nouvelle journée, plus spécialement sur le site de Penly. Alors Penly, c'est quoi ?
Le site de Penly, c'est un site qui est au bord de la mer, du côté de Dieppe. Et donc on a rendez-vous demain, fin de matinée, sur une plage à Penly, qui, en fait, avec vue sur la centrale, on va dire, actuelle. Et donc, voilà, on a donné rendez-vous à tout le monde là-bas demain matin, à 11h, espérons qu'il y ait un peu de monde, mais bien sûr, pour dénoncer tout ça. Mais là, plus sur le site lui-même. Après l'avoir fait à Rouen, on va se déplacer, on va dénoncer sur le site lui-même.
D'accord. Alors pourquoi l'avoir fait sur Rouen même et pas près, par exemple, proche de La Hague, du site de retraitement de La Hague ou sur un autre site
Alors on l'a fait à Rouen parce que c'est symbolique de ce que le gouvernement veut faire, puisque nous, c'est la construction de deux nouveaux EPR tout près de chez nous.
Tout près de Rouen
Tout près de Rouen, puisque Dieppe, c'est à 50 km. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est complètement concerné. On est la grande ville la plus proche avec Le Havre, en gros, mais on est plus près encore. On est la grande ville la plus proche de la côte et des projets d'EPR. Donc c'est pour ça que le réseau national a demandé à ce que la manifestation se fasse aujourd'hui à Rouen et demain, donc, que les Rouennais se déplacent demain à Penly.
Sur La Hague, quelle est la situation ?
C'est un territoire inaccessible. C'est devenu, c'est toute la pointe là-haut qui est complètement bouffée par le nucléaire maintenant. L'espace de La Hague s'agrandit. Là, ils veulent faire encore les piscines en fait qui contiennent les déchets sont pleines. Donc là, il y a un projet de fabriquer de nouvelles piscines de déchets nucléaires. Donc évidemment, ils ont déjà les terrains puisqu'ils ont récupéré tous les terrains là-bas. Mais pour nous, c'est pareil. Il y a des copains qui sont ici aujourd'hui à Rouen qui dénoncent le fait que cette nouvelle piscine va être creusée encore pour mettre encore plus de déchets sur La Hague. Parce que c'est devenu infernal et donc c'est des déchets de longue vie et donc c'est des déchets qui sont ingérables à long terme. Donc pour nous, c'est pas possible qu'il y ait une nouvelle piscine avec des nouveaux déchets à l'intérieur.
Donc Est-ce qu'avec l'EPR, avec la Hague, avec Penly, la Normandie, l'un des sites les plus nucléarisés, enfin l'une des régions les plus nucléarisées de France ou...
Ah bah carrément, de toute façon c'est clair, déjà rien que la presqu'île du Cotentin, c'est déjà le plus nucléarisé de France, voire même du, je sais pas si c'est pas du monde, hein. Entre Le Havre et Cherbourg, il n'y a rien. Par contre, entre Le Havre et puis et Penly, etc., bon, ça fait quand même déjà suffisamment de réacteurs et l'implantation de deux EPR serait catastrophique sur la région. Deux EPR, ça veut dire des populations entières qui vont être déplacées, enfin qui vont être déplacées, qui vont venir sur place pour la construction. Ça veut dire des territoires qui vont être récupérés pour construire des lotissements, parce que c'est un chantier qui va durer 20 ans, quoi. Donc c'est des déplacements de population énormes qui vont conduire à récupérer encore des terres agricoles, à construire des lotissements, bon, et bien sûr construire des écoles pour tout ça, construire des centres commerciaux. Enfin, l'impact sur le territoire est absolument majeur.
Oui, j'habite Dieppe, c'est-à-dire je suis à 12 km de Penly. Et puis on a, dans un premier temps, été menacé déjà d'un EPR, c'était avant Fukushima. Il y avait une concurrence avec Flamanville et finalement ils ont préféré Flamanville. Ouf, voilà. Mais bon, voilà. Je savais. Mais on perd rien pour attendre, puisque là, on nous a gratifié d'une paire, cette fois-là, plus qu'à Flamanville, on double. Et voilà, donc c'est en route. On a repéré quand même que c'est un prototype par rapport à l'EPR de Flamanville, donc un truc nouveau. Donc, ils vont tout réussir, bien sûr. Voilà. C'est plus cher et c'est moins cher et c'est plus simple, c'est ça, moins cher, pardon, parce que plus simple. Alors, l'enceinte de confinement est simple, au lieu d'en avoir deux, parce que deux c'est trop compliqué, hein. Il y a un ralentisseur et pas un récupérateur de corium, voilà. Il y a trois générateurs de vapeur au lieu de quatre, donc on diminue tout. Et la piscine de combustible usagée, elle n'est pas protégée, voilà. Il y a une double coque à Flamanville, chez nous, non. Les ouvrages qui assurent le refroidissement ne sont pas bunkérisés non plus. Et en fait, il y a une absence totale de parade face à l'accident grave. Donc, la conclusion, c'est que la baisse des coûts est recherchée en premier et non pas le souci d'amélioration de la qualité et de la sûreté, surtout. Et en fait... ce qu'on nous dit et nous répète, oui, à Flamanville, c'était compliqué, on a fait des erreurs, mais on apprend des erreurs. Voilà. Nous, ce qui nous pose problème, c'est que, d'abord, ça va être une grande attaque au niveau de l'environnement, en premier. Ils ont dit qu'ils choisissaient Penly parce qu'il y avait la place pour deux réacteurs. Non, ils vont péter 5 millions de mètres cubes de falaises. Et ils vont l'étaler sur 20 hectares de mer, déjà. Rien que ça. On a posé la question, mais si ça ne se fait pas, oh, ben, il y a des tas de travaux, ben, ça ne s'est pas fait, voilà, mais on va faire quand même, c'est les travaux préparatoires. On accélère, on bafoue la loi, et ça, aussi, au niveau démocratique, ça pose vraiment un gros problème. Donc, bon, ce qu'on peut dire, c'est que il y a aussi l'argent, l'argent des contribuables, puisque EDF a été nationalisé, donc c'est vous qui allez payer. Hein. Au moment où on fait des coupes franches dans les budgets, c'est absolument aberrant et c'est criminel. On est en train donc de sabrer aussi au niveau des renouvelables, de la sobriété. Voilà.
Que vous dire de Gravelines ? Que le débat CNDP sur les EPR2 a démarré le 17 septembre. Voilà, donc on est plusieurs associations, Amis de la Terre, du Dunkerquois, Greenpeace, la Fédération Adelpha a participé à ce débat CNDP, où on a bien sûr les discours habituels d'EDF, d'RTE et compagnie. Alors Gravelines, vous connaissez, c'est en bord de mer. Comme Penly, mais c'est une centrale existante avec 6 réacteurs construites sur un polder. On a beaucoup parlé des inondations dans le Pas-de-Calais. Il y a eu moins d'inondations sur le littoral du Nord. Pourquoi ? Notamment parce que le système qu'on appelle des Watrang a protégé toute la zone littorale avec la centrale de Gravelines et ses 17 Seveso, usines Seveso seuil haut. On va bientôt passer plutôt à 20-22 Seveso avec les Gigafactory et les projets Orano, XTC et autres. Donc voilà, la centrale de Gravelines, une centrale qui est soumise au risque de submersion marine et d'inondation par les terres. Donc on lutte contre ce projet pour ne pas avoir en France et dans le monde la première centrale nucléaire offshore. Sinon, je vous invite à signer la pétition qui a démarré, qui vient de passer les 1000 signatures, qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Pétition Green Voice. Vous tapez Green Voice, non aux EPR2 à Gravelines. Et merci de relayer ça partout, à vos contacts. Merci.
Bonjour. Jean-Pierre Collet pour SDN Buget. Chers amis, pour un monde sans nucléaire, bonjour. Alors voilà, je pourrais vous énoncer toutes les raisons pour lesquelles nous sommes tous contre ce projet délirant de construire de nouveaux réacteurs EPR à Penly, à Gravelines ou chez nous dans le Bugey. Je pourrais lister toutes les aberrations contenues dans la poursuite effrénée dans l'énergie atomique voulue par le président seul, Emmanuel Macron, droit dans ses bottes. Aberrations financières, absence totale de bon sens et surtout mise en danger de la population et des générations futures. Je pourrais faire ça, mais je vais me limiter à vous raconter une petite anecdote locale, une anecdote du Bugey, donc un truc assez instructif à mon sens. Comme vous le savez sûrement, la centrale du Bugey est la seule installation nucléaire française qui ne porte pas le nom de la ville qui l'accueille, comme Penly ou Gravelines, si tant est qu'on puisse accueillir ce genre d'installation, mais qui porte le nom d'une région, plutôt d'un massif montagneux. C'est une particularité, vous me voyez donc peut-être arriver. Depuis des années, les élus locaux, surtout dans l'Ain, dans leur très très grande majorité, ne cessent d'exprimer leur très fort soutien à l'énergie nucléaire, soutenant ardemment donc des EPR, vantant les mérites de cette filière, qualité, bénéfices, mais aussi en termes d'image. L'image, c'est important. Pas plus tard que dimanche dernier, dans l'émission En Politique sur France 3, j'ai été convié pour interpeller Olga Gevernel, la nouvelle ministre de l'Énergie, pour relancer la filière nucléaire sur l'absence totale de débat démocratique. Et juste après moi, il y avait le président du département de l'Ain, qui l'a questionné à son tour. Pour lui dire quoi? Eh bien, devinez, il a demandé très poliment à Mme Gevernel s'il ne serait pas possible de changer le nom de cette super centrale. Mais comprenez-nous, Madame la Ministre, nos amis viticulteurs qui produisent cet excellent breuvage nommé bêtement vin du Bugey. C'est bête, c'est comme le nom de la centrale. Ils sont un peu gênés, ils voudraient que ça soit un autre nom. Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler cette centrale la centrale de la plaine de l'Ain? Voilà, il fallait y penser. Alors, si le nucléaire c'est si bien que ça, si réellement c'est la solution à tous nos problèmes, pourquoi un ardent défenseur du nucléaire comme le président du département et tous ses amis élus voudraient changer le nom de cette usine atomique si parfaite, si géniale? En tout cas, pourquoi soutiendrait-il des personnes qui veulent en changer le nom? Faudrait savoir, le nucléaire, c'est bien ou c'est pas bien? Mais au-delà de cette anecdote et ce qu'elle raconte, elle montre au moins trois choses. La première, les pro-nucléaires sont prêts à tout pour arriver à leur fin. La deuxième, les pro-nucléaires ne sont pas à une contradiction près. La troisième, les pro-nucléaires ne sont tout simplement pas honnêtes. Ils n'assument pas, et quand on a des positions, il faut les assumer. Donc la solution, ce n'est pas de changer le nom de la centrale, c'est bien de changer radicalement toute la politique énergétique et d'empêcher toute construction de PR, ni à Penly, ni à Gravelines, ni à Bugey, ou dans la plaine de l'Ain. Là-dessus, on est d'accord, c'est comme vous voudrez. Merci.
Faut faire sauter les billes d'Herbert. Cette fois on va pas se gourer d'adversaires. C'est clair, tout le monde sait qu'il doit payer pour cette de merde. Dans tout le pays, l'atmosphère va tourner à l'enfer. Sur un champ de bataille, au micro contestataire, viens sonner l'alarme dans ce putain de décor, réveiller la misère. Les jeunes, les papis, tous ensemble ont pris le fer. Réunis comme la dernière des grandes armées légendaires. Des combats qui luttent pour la liberté dans tout l'univers. Humanitaire est ma cause, donc c'est sévère que je crache mes vers. Guerriers au sein 6, exorcise la rage, la haine de ceux qui ont la honte. De leur putain de discours qui nous paralyse, hypnotise. Mais fais face à ceux qui ont la main mise. Guerrier au SEM 6, exorcise la rage, la haine de ceux qui ont la hantise. De leur putain de discours qui nous paralyse, hypnotise. Mais fais face à ceux qui ont la main mise. Y'a déjà eu trop d'injures, trop de gestes impurs, trop de pourriture faites à l'encontre de notre nature. Destruction, pollution et dépôt d'ordures. Les mange-morts se foutent de notre gueule et niquent notre futur. Tout pour l'expansion économique, les grandes envergures. Le peuple sature, mais ils continuent leur procédure. Essai nucléaire et retombée radioactive. Les néotechs s'activent pour nous pousser à la dérive. Ah, les guerriers sont là, pas à l'abri des je l'amène au microphone. Et lui, écoute ça, international pour tous les soldats, pour tous les quartiers, tous les barrios malfamés. Faut faire sauter la banque mondiale pour les gosses affamés. Pour ma familia, no es la cosa. Pour sortir de cette merde là, faut planter dans le gras. Guerriero 5-6, exorcise la rage, la haine de ceux qui ont la hantise, de leur putain de discours qui nous paralyse, hypnotise. Mais fais face à ceux qui ont la main mise. Guerriero 5-6, exorcise la rage, la haine de ceux qui ont la hantise, de leur putain de discours qui nous paralyse, hypnotise. Mais fais face à ceux qui ont la main mise.
Suivons l'écoute de cette émission aujourd'hui, nucléaire, un gouffre environnemental et économique. Et nous sommes dans la manifestation antinucléaire des 11 et 12 octobre 2024.
Alors le père de Flamanville, c'est comme une chanson populaire. Ça s'arrête et ça revient, et ça revient. EDF a de vagues espoirs d'arriver à produire de l'électricité avant la fin de l'année. Que dire, outre la gabegie financière et le danger permanent. En réalité, il s'agit d'une machine qui a fait défaut partout. Alors que des centaines de soudures ont été reprises, l'Apollo 13 de l'industrie française n'a pas fini de faire parler de lui. Aujourd'hui, EDF tente de le faire monter en puissance. Aux dernières nouvelles, ils sont à 3%. Et ça s'arrête, probablement pour plusieurs années, au premier arrêt de tranche, dans 18 mois plus tard, ils tenteront de poser des internes de cuve pour éviter les vibrations de l'eau constatées à Taïchan et de changer le couvercle. La cuve, qui par ailleurs possède les mêmes défauts que le couvercle, ne sera même pas changée du fait de sa trop grande taille. Aujourd'hui, ils tentent de démarrer pour enfin pouvoir annoncer une production d'électricité. Même si c'est juste de quelques mois, les événements de niveau 1 se succèdent, le dernier datant du 2 octobre, mais officiellement, tout va bien. À savoir aussi que quand les médias continuent à parler de 19,1 milliards d'euros, il faut se rappeler que ce montant n'a pas été actualisé depuis 4 ans, 2020, alors que les surprises ont continué à être pléthore. Il faudrait en réalité, pour être plus juste, compter tous les coûts jusqu'au premier arrêt de tranche inclus. Macron rêvait de faire de l'EPR le fleuron français que nous pourrions fièrement vendre à l'étranger. Mais personne ne veut du monstre coûteux et dangereux qu'ils ont battu. Bâti ? On aimerait bien qu'ils le battent. L'Inde, qui avait un temps déclaré vouloir en acheter 6, a fait marche arrière. Quant à la Pologne et à la Tchéquie, de même, ils ne veulent pas de notre technologie. Quelle ironie que la France, qui à coup de lobby et de négociations est arrivée à inclure le nucléaire dans la taxonomie européenne des énergies de transition, se fasse quand même rejeter par ses amis. À Taïchan, en Chine, auquel EDF a plus que contribué, des défaillances et des problèmes non résolus persistent. Quant à Hinkley Point, EDF cherche désespérément 4 milliards de livres pour continuer les travaux et construire les réacteurs les plus chers du monde. Non, EDF ne sait pas gérer. EDF n'est pas un champion de l'énergie. Mais tout en restant dans l'opacité, EDF aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un champion de l'effet d'annonce. Si l'Inde, la Pologne et la Tchéquie ne veulent pas de notre EPR, nous n'en voulons pas non plus. L'EPR de Flamanville, l'Apollo 13 de notre industrie française, n'a pas cessé de faire parler de lui et de s'arrêter. La gabegie financière ne cessera pas aujourd'hui. Cet EPR est dangereux. Aujourd'hui, c'est notre Apollo 13. Nous espérons juste qu'il ne devienne pas notre Titanic. C'est dès aujourd'hui qu'il faut arrêter ce désastre. Merci.
Alors, c'est l'Alsace qui est là. Alors, il ne vous aura pas échappé que les deux réacteurs de Fessenheim sont bel et bien arrêtés depuis 2020. Alors, pourquoi donc sommes-nous là? Alors, on est là parce que nous, on veut nous gratifier d'un machin qu'on veut appeler technocentre et qui est en fait un site de refonte des déchets métalliques issus des centrales nucléaires en démantèlement de toute l'Europe. Et en l'occurrence de Fessenheim avec ses générateurs de vapeur. Alors c'est des déchets de très faible activité, hein, attention. Hein. On veut nous gratifier de ce machin. Alors ce machin c'est quoi? C'est un machin où on veut décontaminer au maximum ces fameux déchets métalliques à très faible activité, sachant qu'on ne pourra jamais les décontaminer complètement, hein, on est bien d'accord. Et une fois que c'est décontaminé avec des procédés chimiques, blablabla, on les fond dans des hauts fourneaux. On en fait des lingots et on les réinjecte sur le marché des métaux divers et variés sans aucune traçabilité et on en ressort des casseroles, des landaus, des voitures, des machins, des biens de consommation courante. Je plaisante pas, hein, c'est pas une blague. Et ça, si c'est pas à Fessenheim, ça vous pend au nez. Donc nous on dit non à Fessenheim, mais on dit non ailleurs aussi. Donc pas de technocentre, pas de site de ferraillage ni à Fessenheim ni ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est de la radioactivité qui subsiste dans les biens de consommation courante. Ça fait des spots. Et il a été prouvé, l'IRSN l'a produit une étude en mai dernier, que les rayons ionisants à faible dose, les faibles doses, pardon, sont dangereuses pour la santé. Ça a été prouvé là en mai par l'IRSN, mais ça a été prouvé précédemment. C'est pas nouveau. Les gamins de Tchernobyl en sont encore victimes de ces petites doses-là. Etc. Donc, on n'en veut pas des biens de consommation courante. Donc, non au technocentre, ni en Alsace, ni nulle part. Voilà.
Alors, nous, on vient de la Meuse, mais on pourrait dire aussi de la Haute-Marne et des Vosges, puisque nous sommes opposés donc à CIGEO, le projet d'enfouissement des déchets radioactifs de haute activité et moyenne activité à vie longue, donc à Bure dans la Meuse. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas de déchets actuellement à Bure, hein. Je le rappelle à tout le monde. Alors en fait, nous faisons partie de cette immense chaîne nucléaire qui sillonne le territoire français et européen en tous sens. On est tous concernés, tous irradiés, tous menacés par un danger invisible et mais bien réel. Et donc, soyons tous et toutes déterminés à résister. Alors, il faut savoir qu'à Metz et en Grand Est et à Bure et à Fessenheim, nous payons un lourd tribut au nucléaire avec la centrale de Cattenom, le potentiel technocentre de Fessenheim, on vient d'en parler, le projet CIGEO et tous les satellites en aval de la filière nucléaire pour le retraitement, etc. Les multiples centres de stockage en Marne, Haute-Marne et Aube, au point qu'on dit le triangle du stockage, sans oublier un certain nombre de sites militarisés et d'autres industries plus discrètes. Alors notre objectif global en Grand Est et en Meuse, c'est partout d'entraver le nucléaire et ses projets de relance, c'est entraver CIGEO à Bure pour démentir l'affirmation mensongère que le lobby sait gérer ses déchets nucléaires, et c'est faire mourir la filière de constipation. Rappelons-nous que CIGEO concentrerait à Bure plus de 99% de la radioactivité totale produite par la filière de production d'électricité nucléaire. C'est une cocotte minute, une poudrière pour le territoire et pour toute l'Europe. C'est aussi le plus gros chantier industriel du XXIe siècle. Le projet CIGEO est aujourd'hui sur la dernière ligne droite, après avoir été déclaré d'utilité publique, c'est un pur scandale, il entre dans la phase d'instruction avant une possible déclaration, autorisation de création, pardon, en 2026-2027. Alors les avis officiels pleuvent et ils ne sont pas favorables à l'enfouissement des déchets radioactifs. L'autorité environnementale a actualisé récemment son premier avis de 2021. Il y a toujours trop de questions de fond sans réponse satisfaisante. Et elle signale que le territoire serait lourdement impacté et que la population a été maintenue dans l'ignorance des vrais enjeux qui la concernent. Et ces jours-ci, la CRIRAD a plombé sérieusement la crédibilité de l'ANDRA en dénonçant une densité d'anomalies sidérantes dans les études d'impact, donc pour la DAC, et qui n'ont pas été relevées par l'IRSN ni par ceux qui relisent tout ça. Elle réclame la CRIRA d'une enquête sur les responsabilités et demande l'arrêt des travaux dans l'attente des corrections à apporter à un projet aussi complexe et dangereux. Alors sur le terrain, eh ben, les ultimes tentatives de rachat des terres ou d'expropriation avancent. Ils concernent 300 propriétaires, 550 parcelles autour de Bure pour les tréfonds et la surface. L'ancienne gare de Luméville sur le tracé de l'ITE qui acheminerait donc les déchets par train vers la Descendrie est concernée par ces expropriations. Eh ben, nous ne sommes ni dupes ni DAC. Nous avons besoin de vos soutiens locaux. Venez chez nous. N'hésitez pas à nous faire signe, à venir ponctuellement ou sur le long cours. On est très accueillants. CIGEO ne doit pas voir le jour. Vous pouvez trouver plein d'infos sur nos stands et puis sur les sites internet. Dès que vous tapez Bure dans Google, vous avez plein de choses. Voilà. Merci. Les amis, venez chez nous. On a besoin de vous.
En 2021, nous apprenons qu'EDF a pour projet de construire de nouvelles piscines de stockage de déchets nucléaires sur le site Orano-La Hague, à la pointe de la Manche. 13 000 tonnes de déchets nucléaires en plus.
Sachant que La Hague a déjà la concentration de substances radioactives la plus élevée au monde.
Sachant que plus que 10 000 tonnes de combustible usé, soit l'équivalent de 110 réacteurs, y sont stockées.
Sachant que 80 tonnes de plutonium et 337 tonnes de rebut de MOX sont également stockées.
Nous voulons crier « ça suffit, La Hague n'est pas une poubelle ».
Parce que trop c'est trop, nous créons le collectif Piscine Nucléaire Stop à l'automne 2021. Nous diffusons de l'information sur ce projet, organisons des projections, des carnavals, perturbons les concertations d'EDF. Avec joie et détermination, au milieu des champs, des tempêtes et des vagues, nous luttons.
Les nucléocrates qui clament la relance de cette industrie désastreuse, dangereuse, dépassée, sacrifient les populations et les territoires à qui échouent les déchets nucléaires pour des milliers d'années.
Aujourd'hui, nous voulons être plus nombreuses et nombreux, faire du lien avec les autres territoires en lutte, se questionner collectivement sur le nucléaire et sur ses déchets.
Car si l'heure est au tout nucléaire, promu comme une énergie verte et écologique, que font-ils de leurs déchets? Jusqu'où iront-ils dans le sacrifice de nos territoires ruraux? Comment organisons-nous la défense de nos territoires, du vivant, d'un futur viable?
Ni à La Hague, ni à Bure, ni ailleurs, nous ne voulons être des décharges radioactives.
Le nucléaire, c'est notre passé. Nous voulons désormais penser notre manière d'habiter et de vivre nos territoires. Notre terre a été souillée. Nous voulons maintenant en prendre soin et transmettre autre chose à celles et ceux qui viendront après nous.
C'est pourquoi nous organisons le 18, 19 et 20 juillet 2025 à La Hague, 3 jours de rencontres, de discussions, d'actions sur la question des déchets nucléaires et des territoires. 3 jours pour se réunir, partager nos peurs, nos colères, nos joies. Donnez à nos luttes le goût de la solidarité et du collectif.
Rejoignez-nous à l'événement ARO. Agitons ensemble nos têtes, nos corps, nos cœurs pour que ces 3 jours soient festifs, créatifs et offensifs, mêlant le sensible, le politique, l'intime, le collectif et crions ARO!
Régine, du collectif Bure Stop. On est un collectif dans la Meuse et ça fait environ une trentaine d'années qu'on lutte contre un projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure.
Donc, qui est l'équivalent de celui de La Hague, un peu comme La Hague.
Alors c'est pas tout à fait l'équivalent de La Hague. En fait, il faut savoir qu'en France, partout où on fait des déchets nucléaires, ils sont entreposés aussi bien dans la vallée du Rhône, notamment dans la vallée du Rhône et à La Hague. Mais La Hague a ceci de particulier, c'est que c'est aussi un centre de retraitement des combustibles usés pour en extraire le plutonium et l'uranium et que donc c'est un complexe qui est extrêmement pluriel et extrêmement grand. Et voilà. Alors à Bure, dans la Meuse, qui est en fait à la limite entre la Meuse, la Haute-Marne et les Vosges, c'est pour répondre en fait à la directive Euratom, donc directive européenne, qui demande à ce qu'on trouve une solution définitive pour les déchets radioactifs. Et la solution que la France est en train de privilégier, au lieu d'étudier toutes les voies de recherche possibles, c'est l'enfouissement à 500 mètres sous terre dans l'argile de Bure. Donc pour enfouir les déchets de haute activité à vie longue et de moyenne activité à vie longue.
Donc quand tu dis haute activité, c'est hautement dangereux,
hautement radioactif.
Et pourquoi l'argile de Bure ? Quelle est la particularité de l'argile de Bure ?
Alors en fait, l'ANDRA, qui est l'organisme justement qui doit prendre en charge la gestion des déchets radioactifs, considère que l'argile de Bure, c'est la meilleure roche parce que l'argile est une roche, hein, comme le granit, comme voilà, et considère que l'argile de Bure est à même de confiner la radioactivité, c'est-à-dire de retarder le retour de la radioactivité à la surface de la Terre ou dans l'eau des aquifères, etc. Voilà, mais ce qui supposerait qu'effectivement leur fameux coffre-fort géologique fonctionne réellement, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors actuellement, il y a un dossier qui avait été déposé pour obtenir l'utilité publique du projet, qu'ils ont obtenu d'ailleurs. Et en fait, il y a un certain nombre de gens qui ont été amenés à donner leur avis. Donc des gens qui ont quelquefois beaucoup de technicité, beaucoup d'expertise, comme l'autorité environnementale par exemple, ou comme la CRIRAD, qui considèrent que, ou d'autres, hein, comme France Nature Environnement, qui considèrent qu'en fait le dossier de demande d'utilité publique comportait plus de questions que de réponses, et pourtant on a donné l'utilité publique au projet. Et on est en train de récidiver actuellement avec la demande d'autorisation de création. Pour cette demande, en fait, un dossier est déposé en cours d'instruction actuellement. Et la CRIRAD vient de produire une expertise qui assassine le projet, qui assassine le dossier, parce qu'il y a des contradictions dans le dossier. Elle estime que l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, n'a pas fait son travail, et que les gens qui étaient même chargés de relire ce que faisait l'IRSN n'ont pas vu qu'il y avait des énormités dans le dossier. Donc on en est là actuellement. On considère, à l'instar de la CRIRAD, que ces dysfonctionnements sont proprement inadmissibles et que, en attendant, le projet doit être stoppé. C'est-à-dire qu'il n'est pas en capacité, l'ANDRA n'est pas en capacité de prouver que le dossier est faisable, et faisable en toute sécurité et sûreté pour les gens du territoire et pour la France et l'Europe. Parce qu'en fait, c'est une poudrière, ce truc, c'est une cocotte minute qui, si elle devait exploser ou s'il devait y avoir un incendie, contaminerait en fait la France et l'Europe.
D'accord. Donc, vu toutes ces anomalies administratives, est-ce que vous l'avez déjà fait, si c'est possible, de déposer un dossier au tribunal administratif pour suspendre le projet ?
Alors, depuis 30 ans, en fait, on a une action juridique qui parfois ne donne rien parce que, bon, la justice est un peu particulière. Souvent, on ne juge pas sur le fond, mais beaucoup plus sur la forme. Voilà. Et puis, on a quand même eu des victoires juridiques et, entre autres, des victoires qui ont permis de faire stopper les travaux préalables que l'ANDRA voulait engager très tôt sur le secteur, et notamment quand ils ont voulu investir le Bois-le-Jus. Le Bois-le-Jus a été occupé pendant plus d'un an, et le tribunal nous a donné raison. C'est-à-dire que l'ANDRA avait entamé des travaux de manière illégale, n'avait pas fait les demandes nécessaires. Et...
Est-ce que ça a arrêté les travaux
Alors, ça a au moins arrêté la première avancée des travaux préparatoires. Mais l'ANDRA actuellement est vraiment en embuscade, hein, c'est-à-dire que Elle a tout préparé pour que on ait une série de dossiers qui dégringolent très vite dès l'instant où l'autorisation de création serait donnée. Et par exemple, actuellement sur le terrain, l'Andra, qui avait toujours acquis des terrains à l'amiable, ne les possède encore pas tous. Et donc, elle a entamé des dépôts de dossiers, elle a entamé des démarches en fait auprès des propriétaires et des agriculteurs, de manière à ce que les gens acceptent de céder le foncier qui lui manque encore. Et ça, je ne sais plus combien de gens ça concerne, mais je crois que c'est 330 personnes et 550 parcelles. Donc c'est pas négligeable encore, hein, ce qui reste, je dirais, à maîtriser en termes de foncier par l'Andra.
Donc pour l'instant, le projet est stoppé?
Non, le projet n'est pas du tout stoppé. Il est en cours d'instruction pour l'autorisation de création.
Oui, non, et mais l'Andra, la construction est stoppée pour le moment.
Il n'y a jamais eu de construction, en fait. Il y a eu la construction d'un laboratoire pour faire les premiers travaux de recherche. Et en fait, ce que l'Andra envisage, dès qu'elle aurait l'autorisation de construction, c'est de démarrer une phase pilote à partir de peut-être 2026 ou 2027. Donc il n'y a actuellement pas de déchets à Bure, puisque la phase de laboratoire ne demandait pas de travailler avec des déchets. Mais par contre, la phase pilote engagerait la totalité des fonds que l'Andra, enfin que les producteurs de déchets ont provisionné pour la totalité du projet, serait engagé rien que pour la construction du projet. Et une fois qu'on aurait engagé tous ces fonds, eh ben c'est évident qu'on ne reviendra pas dessus. Ça paraît extrêmement logique.
Là, on est vraiment dans un...
On est sur la dernière ligne droite, vraiment. Nous, de toute façon, on ne laissera rien passer. Sur le plan juridique, on ne laissera pas passer. Parce qu'on a suffisamment d'arguments sur le fond comme sur la forme pour dire que l'Andra n'est pas en capacité de démarrer. L'Andra, en fait, remet toujours à plus tard ce qu'elle devrait déjà avoir démontré. C'est-à-dire qu'ils ont inventé un nouveau concept qui est le projet itératif. Itératif, ça veut dire que les données qu'elle doit fournir n'arriveront que progressivement et pas forcément avant l'autorisation de création. Ce qui est un monde. Enfin, ça ne se voit pas dans aucun autre domaine.
D'accord. Ben, et quelles sont les prochaines étapes, du coup?
Alors, les prochaines étapes, ben, ça serait le démarrage de l'enquête publique. Et puis, à l'issue de l'enquête publique, pourrait être pris l'autorisation de création.
Et il y a une activité judiciaire.
Pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était La Régorge, chaque semaine sur Nicolas Guirec à Montpellier, Canassu, à Toulouse. Donc, bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.
Oh,
La radio qui fait.
Run them jewels fast, run them jewels